Bonsoir.
Bonsoir. Salut, c'est Enzo de Uncut. Je suis guitariste soliste. Et salut, moi c'est Pablo et je suis batteur et je fais des chœurs aussi un petit peu. Et le chanteur Alex n'est pas là.
On est ensemble pour parler de votre EP, From Blue, qui est sorti par l'intermédiaire de Clonosphère. Ma première question, ce sera tout simple. Pourquoi avoir choisi un format EP pour From Blue?
On a choisi un format EP parce qu'il fallait, par rapport à la promo, en fait, il fallait qu'on sorte un EP avant, c'était plus simple. Et en fait, sur l'EP, il y a quatre morceaux de l'album qui va sortir, enfin, quatre morceaux du futur album.
Ouais.
Il y a deux morceaux acoustiques et il y a un morceau, un vieux morceau qu'on a fait chez moi, en mode garage, quoi. C'était notre premier morceau, quoi, une démo, quoi.
C'est un vrai avant-goût de ce qu'on retrouvera après sur un album.
Ça représente un peu tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, en fait, cette EP.
Parce que vous aviez aucune production physique précédemment, c'est ça?
On avait une démo de 4 morceaux, mais du coup, en fait, on l'a refaite en mieux, quoi.
Et tous les morceaux qu'on retrouve, donc, qui sont Blue Eyes Lover, Bee Blues, Diandra et Snake Boogie, c'est que des morceaux qui ont été composés récemment?
Ils ont été composés l'année dernière, en décembre 2018. On a fait l'album l'année dernière.
Pour ces quatre morceaux-là, du coup, est-ce que vous avez commencé à changer quelque chose par rapport à votre façon de composer, justement pour montrer l'évolution du groupe, ou est-ce que vous avez la même recette depuis la création de Uncut?
Oui, en fait, la recette, c'est qu'on joue beaucoup ensemble, du coup, au début, donc pour trouver. En fait, quand on a créé le groupe, on a composé en fait en 2 temps. Et après, c'est Enzo, le guitariste, qui a composé chez lui l'album, en fait, enfin, tous les squelettes des morceaux, parce qu'il faisait des trucs.
On fonctionne comme ça, quoi, à l'inspi, pour certains morceaux, et pour d'autres, ouais, je me pose et je trouve des riffs, et après, je leur envoie une première structure, qu'on arrange ensemble. Ça met du temps, ça met quelques mois, voire des années à évoluer. Hein. Genre, Snow Boogie, la première version, elle a mis un an avant d'être celle qu'on entend sur l'EP, là.
C'est un gros travail, alors on ne peut pas dire de jam, mais de travail ensemble, vraiment en répétition, jusqu'à ce que ça sonne exactement comme vous voulez.
C'est ça, puis après on part sur des idées, puis après on écoute, on prend le temps aussi de laisser mûrir les idées, et quand ça nous, enfin, s'il y a des trucs qui nous plaisent, on les garde, on les vient, on change.
On les teste en concert aussi.
Ouais.
Chaque morceau, c'est dès qu'on a une concours, on la joue, même si elle n'est pas vraiment finie, on les teste dans des bars, et puis après, on les peaufine au fur et à mesure.
Donc pour justement que ça groove bien, puisque vous avez un son très rock, très classique, vous vous définissez comment au niveau du son de Uncut?
Je dirais qu'on fait du groove rock teinté de psychédélisme 70s,
ouais.
De profondeur des 90s, quoi.
Ok. L'important, c'est que, bah, ça, justement, comme vous disiez, ça groove, que ça envoie bien et que les gens ont envie de se déhancher en écoutant votre musique.
Ouais, carrément. On a envie que ce soit la fête.
Ce son un peu classique, un peu rétro, vous l'expliquez comment? Parce que vous n'êtes pas des grands-pères pour autant?
Eh non. En fait, moi je dirais que le son classique rétro, il vient peut-être plus des riffs, mais après le son vraiment lui-même. Il est pas si vintage que ça, quoi. Le son de la batterie, il est quand même produit assez moderne, même le jeu de Pablo en témoigne. Et le son de la guitare baryton, surtout d'Alex, c'est ça qui fait notre différence avec tous les power trio, en fait, où c'est une basse. Là, la guitare baryton qui est branchée en split sur un ampli guitare et un ampli basse en même temps, avec une saveur qui divise le signal en deux, ça donne un son avec une fréquence basse, plus un son avec une fréquence agressive dans les médiums. Ça sonne pas vintage, enfin, je trouve pas.
Donc c'est de là, en fait, que vient votre son. C'est déjà une question de matériel qui fait que ça vous démarque, en quelque sorte, par rapport à d'autres qui pourraient avoir des guitares, on va dire, un peu habituelles, simplement avec un accordage un peu différent, un peu plus grave, ou avec tout un tas d'effets derrière. C'est un petit plaisir pour vous, changer le son, mais de façon naturelle, justement, d'avoir une guitare qui ne soit pas une guitare classique, d'avoir ces deux amplis branchés en même temps. Vous êtes un peu des bidouilleurs de son, façon de parler?
Ouais, ça a mis du temps. Hein. Au début, on a un petit peu galéré. Mais en fait, notre chanteur, c'est pas un bassiste. Du coup, en fait, ça s'est fait naturellement. Lui, il voulait faire de la guitare.
Ouais.
Un guitariste aussi, quoi. Et du coup, voilà, on a cherché un peu les solutions, puis ben, la guitare bariton est arrivée assez vite. Au final, on a eu l'opportunité d'en avoir une très rapidement. Et voilà, puis après, au début, je jouais que sur un anti-guitare. Après, on a vu d'autres groupes, on est dans des concerts, voilà. Il y a pas mal de groupes où il y a deux guitares, où ils jouent sur un anti-bass et un anti-guitare. Il y a un petit peu de travail sur la recherche de son, mais on a, en même temps, la recherche de son, elle est interminable, hein, ça se finit jamais, je pense. Il y a toujours des trucs à trouver. On évolue, quoi. Donc, mais là, pour l'instant, on est plutôt content du son qu'on a. On arrive en tout cas. Donc, voilà, ouais, à propos de cette question, ouais, ça s'est fait naturellement, pour le coup, ouais.
Il y a d'autres spécificités. Sur le chant, par contre, c'est assez naturel, j'ai l'impression.
Oui, c'est naturel, avec un peu de réverb.
Mais après, je considère que la réverb, c'est façon de parler, quelque chose de presque obligatoire, en fait, sur le chant. Enfin, c'est quand même très rare, les gens qui n'en utilisent pas, quoi.
Dans le rock, en tout cas, oui.
Il y a des groupes, quand même, qui utilisent la réverb.
Dans le rock, je reconnais.
Dans les années 90, quand même, des trucs. Red Against the Machine, il n'y a pas de réverb.
Oui, c'est vrai.
Oui, enfin, je veux dire, après, sur des groupes qui sont, on va dire, dans la veine musicale dans laquelle vous officiez, mettre de réverb, ce serait quand même, ce serait surprenant, je pense.
Oui, sans réverb, oui, ça serait un petit peu bizarre.
C'est une question de goût, hein. Ça permet de cacher les défauts un peu aussi, quoi.
Non, mais ça met un peu de rondeur, de toute façon, donc c'est toujours un peu agréable. Vous avez vos quatre titres, vous avez rajouté après donc des versions unplugged, donc pour Blues Eye Lover et B-Blues. C'est des versions unplugged qui ont été enregistrées en studio ou c'est des sessions live sur ces unplugged?
C'est les deux en même temps,
c'est les deux en même temps.
Sessions live en studio.
D'accord.
En fait, on a notre ingé son qui nous tient en live, il a un studio à Poitiers et du coup, on a fait ça chez lui en prise live.
C'est quelque chose qui se fait presque plus, justement, des enregistrements façon live, comme si il y avait une bande qui tournait avec le 4 pistes et tout le monde qui part en même temps. C'est un petit plaisir, un petit peu d'adrénaline aussi, de savoir que tout va être enregistré en live et qu'il faut pas se rater sur un morceau qui dure entre 5 et 5 minutes 22 pour Blue Eyes Lover et B-Blues.
On aime jouer tous ensemble en live, en fait, nous, c'est là où on est le mieux, en fait. C'est un plaisir en fait de faire de jouer tous les trois en même temps, et je pense que même sur le prochain album on fera des prises live pour l'album.
C'est peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs sur les parties électriques.
Et non, du coup on n'a pas fait un reprise live sur l'album.
Ok. Votre ingé son de son côté, comment il l'a pris, c'est façon de parler que du bonheur pour lui, parce que justement il n'y a qu'une seule prise.
Ben lui de toute façon il est habitué à enregistrer du live. Lui, ils ont trippé, quoi. C'est un peu des guides du son, quoi.
Mm-hmm.
Du coup, ils étaient contents. Ils ont placé, ça a peut-être mis 2-3 heures à l'install pour bien tout caler, faire des tests de son.
Mm-hmm.
Du coup, moi j'étais content qu'eux ils se fassent plaisir aussi.
Un souvenir particulier justement pendant cette période d'enregistrement sur les quatre titres et puis sur le live unplugged, enfin sur la session unplugged, vous venez d'en parler, mais sur les quatre titres enregistrés, ça fait quoi justement de pouvoir re-enregistrer quelque chose pour produire du son et donner un nouvel élan justement au groupe? Vous avez un souvenir spécial de cette session d'enregistrement?
Un souvenir spécial par rapport à, par exemple, les quatre premiers morceaux qui étaient sur l'EP. Donc, ils sont issus de l'album qui va sortir l'année prochaine. Là, on l'a enregistré au studio Saint-Marc à Paris, Sixcast. Souvenir de cette période d'enregistrement, Pablo et moi, on avait fait un extra au cousin traiteur.
Ah oui. On a bossé en plein milieu de l'enregistrement parce qu'on n'avait pas de sud. Du coup, on a fait de la restauration.
Un souvenir, c'était le Chris Artist, c'était intéressant, c'est fatigant, mais c'est 3 jours de prise drum, pour l'installer. Après c'était la bariton, après c'était la guitare libre.
D'accord.
Et après plus tard on a posé le chant avec Guillaume Bernard, Alex a posé le chant à Poitiers.
Mais après comme souvenir, on a rencontré Francis, il est plutôt cool, du coup on s'est bien marré avec lui aussi pendant l'enregistrement, c'était une bonne aventure.
Oui. Une bonne session de 10 jours.
Il vous a donné quelques petits conseils, puisque c'est, enfin, Francis Cast et son studio Sainte-Marthe, c'est quelqu'un qu'on croise quand même très très régulièrement sur les productions françaises. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec quelqu'un qui a de la bouteille, si je peux dire, comme Francis Cast?
C'est vrai qu'il était là pour nous donner des conseils, même de jeu sur certains trucs. Il était bienveillant dans la son aussi, ouais. Pour le son. Après, il faut dire que avec Alex, donc les deux gratteux, là, on arrivait là-bas, on avait tout un stock de pédales qu'on nous avait prêtées. Et on a tout testé, en fait, sur place. Donc vraiment, une semaine avant d'enregistrer, on savait pas trop le son vraiment qu'on allait avoir, quoi. Puis on a utilisé tout le backline aussi du matos, enfin, tous les amplis qu'il a sur place, du coup, qui est atteint, faudrait qu'on ait ces amplis-là, quoi, mais ils coûtent relativement cher. C'était très, très intéressant. Et du coup aussi on se rend compte que les prochains enregistrements électriques on les fera pas en piste par piste au clic et tout, parce que ça peut enlever de un côté naturel en fait dans le jeu, surtout sur les balades. C'est pas pareil quoi, de jouer au clic et de laisser vivre la musique et que le tempo bouge, et quand on joue ensemble c'est différent quoi.
Il y a la partie donc enregistrement comme on vient d'en parler, et puis après il y a la partie donc en concert avec le entre-deux que vous avez expérimenté sur les deux morceaux Unplugged. Est-ce que en live vous permettez quelques improvisations par rapport aux partitions originales?
Eh bien oui. Que ce soit au niveau du chant, parce que faut bien savoir qu'Alex, quand il fait les grosses poussées, les grosses gueulantes, c'est assez physique.
Ouais.
Il fait pas tout le temps les mêmes.
Ok.
Pareil, Pablo, de temps en temps, enfin quand même, il change les breaks. Moi, forcément, les mêmes solos tout le temps aussi. On se laisse une marge d'impro. Ce qui est bien, c'est que là, les morceaux, on les connaît quand même. Ça fait un an qu'ils sont enregistrés. On les connaît quand même bien, bien, bien. Voir les yeux fermés. Du coup, on peut se permettre, en connaissant toutes les parties originales, de sortir à un moment du chemin pour revenir.
Puis en live, il arrive toujours qu'il y ait des imprévus.
Ah oui, des couilles techniques.
Ouais. Voilà, des problèmes. On arrive à rebondir assez rapidement. Du coup, ça fait partie de l'impro aussi. Et on aime bien ça. Le spectacle vivant.
Ouais, ben c'est aussi l'esprit rock'n'roll. Voilà, faut que ça marche et pas forcément que grâce à la machine derrière.
On n'a pas de, il y a pas de sample, il y a, voilà, on joue pas, enfin il y a pas de, on joue, c'est nous trois quoi, il y a pas de
clic en plus,
voilà, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, donc c'est cool.
Vous avez pas mal tourné là récemment, depuis le mois de septembre et puis là jusqu'au mois d'octobre. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils vous croisent?
Le public, il est plutôt content, parce qu'en fait, nous, pour la tournée qu'on a fait, on jouait en premier.
Oui.
Il y avait généralement trois groupes, et donc nous, à chaque fois, on était groupe d'ouverture, et on a eu des bons retours. Les gens étaient plutôt contents de notre énergie. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois, on jouait une demi-heure.
Oui, c'est assez court, finalement.
Une demi-heure, c'est cinq morceaux, cinq ou six morceaux, et généralement, on jouait vers 20h, donc il n'y a pas grand monde. Il y avait quand même du monde, hein, oui. mais du coup, les gens sont un petit peu timides aussi.
Ils ne jettent pas pour nous, donc c'est notre rôle, en fait, de tout donner pendant les 30 minutes qu'on a.
Oui, voilà.
De ne pas s'arrêter, en fait. On joue 30 minutes sans s'arrêter.
C'est parti, quoi.
Il faut être chaud direct. C'est vrai que la première date de la tournée officielle en smack au Ferrailleur à Nantes, c'était un peu, on était un peu stressés. Et du coup, vu que le public était vachement à l'écoute, c'était un peu froid comme ambiance, mais on a quand même réussi à faire le truc. Et après, c'est vrai que toutes les dates, ça a été de mieux en mieux, quoi.
Et puis du coup, l'aventure continue, puisqu'il y a déjà des dates qui ont été annoncées pour 2020. Le 1er février avec le Inouï 2020, après le 20... mars, ce sera un concert au Brise-Glace avec Clone et Shuffle, et puis ensuite 18 avril encore avec Clone et Howard, et puis après vous avez déjà une date pour le 9 octobre 2020 avec Laura Cox.
Oui, au Gros Emanier. Ouais.
Donc voilà, je pense que c'est un agenda qui va s'étoffer de toute façon sur l'année prochaine.
Ouais.
Après, pour que les gens soient au courant, du coup, le plus simple, c'est de passer justement sur votre page Facebook. Pour donner aux gens envie d'aller justement vous voir en concert, vous avez, comme tous les groupes, tourné notamment le clip Blue Eyes Lover. Vous pouvez nous parler de ce tournage de clip ?
Écoute, ça s'est fait en 4 heures. Le clipper, Julien Philippe, il habite à Tours.
Ouais.
Il est venu à Poitiers.
Avec une petite valise.
Avec
plein de petits trucs dedans.
Voilà. Et il nous avait demandé de trouver un steadicam aussi à côté, quoi.
Ouais.
Et là, on s'est installé. On s'est installé
la veille.
Ouais, c'est ça, on s'est installé avant. Et du coup, ouais, on a tourné 4 heures, c'était fait, quoi. En même temps, tu te regarderas dans le clip, il n'y a pas énormément de plans. Mais c'est vrai que ouais, c'était super de bosser avec lui parce qu'il était vachement impliqué physiquement parce qu'en fait on jouait en playback. C'est un délire aussi de mettre le son super fort dans une enceinte à côté de Pablo. Parce qu'en fait c'est surtout pour Pablo que c'était compliqué de taper, de t'adonner l'intention.
Oui.
Les cuisses cymbales matées,
il faut que ça soit vrai. Mais c'est mal, elle faisait. elle avait pas de son, quoi.
Ah ouais.
Et puis c'était trop drôle. Enfin, je pouvais pas rigoler.
Ouais, et puis Julien, il était à fond dans ses mouvements.
Il a transpiré.
Ouais. On a bien rigolé. C'était un super moment. Ouais.
Ce clip où on vous voit grosso modo jouer à la maison, ça s'est scénarisé comment ? C'est vous qui avez eu l'idée ou justement c'est votre réalisateur qui vous a proposé de faire ce clip-là ?
On voulait faire un clip où on nous voit jouer, chaleureux. Et du coup, on a des amis à côté qui ont cette maison merveilleuse à la Mérigotte. Et voilà, on leur a demandé si on peut faire un clip chez eux. Et ils ont dit oui. Du coup, après, Julien lui a proposé et ça l'a chauffé aussi direct. Donc, ça s'est fait tout naturellement.
Ça donne envie de faire des concerts à la maison, vraiment, du coup, avec juste quelques invités ultra privilégiés ou pas ?
Dans des maisons, ouais, on pourrait. Après, c'est dur de sonoriser, que ça sonne bien notre musique quand même dans une maison. Ça...
Ouais, c'est clair.
Ça peut être un peu trop fort. Par contre, en unplugged, oui, si vous voulez nous appeler. Si vous voulez nous faire jouer
dans des
chapelles, il n'y a pas de problème. On est en unplug, il n'y a pas de souci. C'est facile à sonoriser, à emmener du matos, c'est
ouais.
Cool.
Même si Alexis n'est pas là, de quoi est-ce que parlent vos paroles ?
Bien, ça parle de sujets un peu classiques dans le rock. Ça parle des meufs, ça parle des problèmes, même perso. C'est inspiré du vécu d'Alex, mais c'est un peu scénarisé. Je réponds à sa place, ça parle d'émotions, quoi. C'est pour des morceaux, en fait. Il n'y a pas vraiment de sujet de prédilection.
Il y a un morceau, ça parle d'un dinosaure, par
exemple. Ouais, il n'est pas sur le plus. Il n'est
pas sur le plus.
Diandra, par exemple, ça parle d'une femme qui s'appelle Diandra, qui est très courageuse. Elle affronte la vie avec panache.
Un mot sur la pochette ? Cette photo, comment est-ce qu'elle a été prise ?
Elle a été prise avec son appareil photo. On l'a fait à la mairie de Bosse aussi, là où on a fait le clip, dans le jardin.
D'accord.
Ouais.
C'est une banana qui habite là-bas. On a fait toute une série de photos, en fait, dans la maison, dans le jardin. En fait, ils ont un grand espace avec, c'est un super endroit.
Mm-hmm.
Et du coup, on a choisi celle-là. Je sais même plus pourquoi on a pris cette photo-là. Je sais pas trop. Parce qu'on l'aime bien. Moi, je trouve jolie, cette photo.
Donc, fallait une photo où on nous voit.
Oui, voilà aussi, ouais,
qu'on voit nos gueules, quoi, pour prendre ce
que... Oui, c'était plus simple d'avoir une photo où on est dessus, en fait. Et sinon, on aurait dû faire tout un visuel, ça, c'était un petit peu compliqué. Et le fait d'avoir une photo, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et puis, vu que c'est notre premier EP, c'est cool d'avoir nos têtes, comme ça, voilà, les gens, ils peuvent voir qui on est aussi.
Vous avez déjà pas mal de retours au niveau de vos chroniques. Est-ce que vous avez aussi des retours de la part de fans qui vous donnent leurs sentiments justement sur From Blue ?
Je crois que la semaine où le EP est sorti, moi j'ai eu plein de stories Instagram à repartager.
Ok.
Après, si on nous écrit quand même un peu, on a des fans.
On en a une en ce moment, c'est avec Isabelle.
Ouais, big up
Isabelle.
Isabelle qui est une fan hardcore, on pourrait dire, parce qu'elle nous repartage tous les jours quasiment. Ouais. Mais merci beaucoup.
Je vais vous proposer 5 chemins et vous pouvez en prendre un parmi les 5. Vous avez le droit de ne pas partir éventuellement au même endroit. C'est-à-dire que je vous propose de partir soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, soit emprunter le chemin de briques jaunes, monter la Stairway to Heaven, descendre la Highway to Hell ou sinon partir vers l'infini et au-delà. Vous prenez quoi comme chemin ?
Moi, j'irais partir vers l'infini et au-delà de Toy Story.
Oui.
Moi, je dirais exactement la même chose. J'ai hésité avec Peter Pan, mais c'est sûr, c'est Buzz.
Ouais, c'est Buzz, hein.
Surtout si vous venez nous voir en concert, vous entendrez un super Buzz en sol, un peu haut.
Quelque chose que vous souhaiteriez ajouter pour conclure?
Sauver le rock!
En 2020, quoi. C'est la mission de tout le monde.
C'est une très belle mission.
Yes, merci beaucoup.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Merci beaucoup pour tout ça.
De rien, ça fait très plaisir.
Merci à toi, Xavier.
Et puis amusez-vous bien.
Yes, merci beaucoup.
À vous les studios.
Ciao.